Petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Bonjour à vous, petites oreilles buissonnières. Allez, on se détortille les tympans, on se décontorsionne les ouïes et c'est parti! En avant-marche aujourd'hui pour visiter les coulisses de nos maisons, les arcades de nos greniers, les clés de voûte de nos caves, en passant par la cage d'escalier, la terrasse, les chambres, le salon, la cuisine et les placards à sorcières. Dans cette architecture, jetons un œil et jouons les petites souris pour se faire un labyrinthe de galeries. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlons de maisons. Ah, mais pas n'importe lesquelles. Non, 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 pas des châteaux, des manoirs, ni des ruines romaines ou d'Athènes. Non, non, des maisons de demain, de celles dont on fera un trésor d'inventivité pour les rendre solides, costauds, à l'abri du souffle des vents et des loups, et puis un peu jolies quand même. Alors, aujourd'hui, la question suivante. Comment sera ta maison plus tard ? C'est Marjorie Meunier et Florent Simon, jeunes architectes et constructeurs, qui vous donneront quelques outils pour construire la maison de vos rêves.
Il y aura un terrain de baseball,
un jacuzzi,
un écran plasma,
un terrain de foot bien sûr,
une patinoire,
une salle de jeux vidéo, plein de piscines,
des vitres double vitrage,
qui est une cheminée pour faire de la chaleur
de toutes les couleurs,
en forme de cœur,
et il y aura une source thermale à l'intérieur.
Une salle de cinéma au sous-sol.
Et des éoliennes et une centrale hydroélectrique dans le jardin.
Moi, dans mon jardin, je vais avoir des plantes carnivores.
Et aussi, je prendrai un mouton, comme ça évitera la tondeuse.
J'aurai 60 panneaux solaires sur mon toit, 50 éoliennes et 3 piscines.
Mais l'eau, je la récupérerai de la mer. Et bien sûr, il y aura quelque chose pour enlever le sel.
Moi, j'aurai aussi un château. Où dedans, il y aurait plein de pièges pour les personnes qui viendraient surprises.
À ma maison, elle sera japonaise. Il y aura des cerisiers dans mon jardin. Il y aura plein d'isolants.
Un terrain de tennis, une piscine, un terrain de foot. Il y aura une salle cinéma et une salle de jeux vidéo.
Qu'elle ait un toit nord-sud pour mettre les panneaux solaires.
Et j'habiterai à la plage.
Tout en haut, il y aura une salle de cinéma et tout en bas, ce sera mon salon.
Il y aura au moins 40 chaînes, même plus, 1000 chaînes sur ma télé.
Elle sera rouge à l'extérieur et bleue à l'intérieur.
Il y aura le jardin en haut pour isoler. Il y aura des fenêtres double vitrage et une cheminée.
Comme une pyramide d'Égypte.
En forme de carré cubique.
Elle aura la forme d'un œuf qui est sur son cocotier.
Elle sera construite en fromage.
À l'intérieur, le sol, il sera en bois.
Moi, ma maison, elle aura pas d'étage. Elle se sera toute plein pied, mais elle aura quand même un toit.
Il était un petit homme pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. La maison est en carton, pirouette, cacahuète. La maison est en carton, les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier. Si vous voulez y monter, pirouette, cacahuète. Si vous voulez y monter, vous vous casserez le bout du nez, vous vous casserez le bout du nez. Le facteur y est monté, pirouette, cacahuète. Le facteur y est monté, il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. Raccommodé, pirouette, cacahuète, on lui a raccommodé avec du joli fil doré, avec du joli fil doré. Le beau fil s'est cassé, pirouette, cacahuète, le beau fil s'est cassé, le bout du nez s'est envolé, le bout du nez s'est envolé. Un avion à réaction, pirouette, cacahuète. À réaction, à rattraper le bout du nez, à rattraper. rattraper le bout du nez. Mon histoire est terminée, pirouette, cacahuète. Mon histoire est terminée. Messieurs, mesdames, applaudissez. Messieurs, mesdames, applaudissez.
Vous l'aurez bien reconnu, c'était Pirouette Cacahuète, un CD édité par Enfance et Musique. Et vous êtes sur les oreilles buissonnières 99.2. Alors, Marjorie Meunier et Florent Simon, est-ce la bonne solution, une maison en carton et des escaliers en papier ?
Alors, bonjour tout le monde. Eh bien, c'est pas une utopie si incroyable à croire d'avoir des murs en carton et des escaliers en papier, puisque c'est des matériaux qu'on peut utiliser dans les maisons actuelles. D'ailleurs, en tant que matériau, le papier est un très bon isolant. En fait, il se présente sous forme de ouates de cellulose. Et on peut les mettre dans les murs. Par contre, pour la structure, le carton, c'est pas assez solide. Il faut rajouter un élément de plus pour que, effectivement, les murs ne s'écroulent pas à la moindre bourrasque de vent.
Alors, comment construit-on justement une maison solide qui ne dégringole pas au moindre coup de vent ?
Alors, le principe de tenue d'une maison est que tous les éléments composants de la maison soient attachés entre eux. Donc en partant du sol, que la maison soit attachée au sol, on fait ce qu'on appelle des fondations pour accrocher la maison par terre, et ensuite on monte les murs qui sont liés avec le toit, qui sont liés avec les fenêtres et avec la charpente. Donc ce qui fait une boîte solide qui résiste au vent, à la pluie, à la neige. Et après cette boîte, on l'habille, on la couvre avec des tuiles ou avec des éléments étanches, et on bâtit les murs et les fenêtres de manière à arrêter l'eau et le vent.
Donc on la déguise, quoi.
Non, c'est pas du déguisement, l'ensemble de structures qui... Le principe, c'est vraiment d'accrocher les éléments tous entre eux. Voilà.
D'accord. Et on fait des nœuds ? Comment on fait pour faire tenir tout ça ?
Alors, on fait pas de nœuds. Avec du carton, on pourrait le coller, par exemple. Du papier, on pourrait le coller. La plupart du temps, c'est des murs en pierre ou en bois. Donc, la pierre, on peut considérer qu'elle est collée avec du ciment. Ou le bois, les éléments sont vissés entre eux. Voilà.
D'accord. Et alors, moi j'ai une question à vous poser. Où seront les maisons de demain ? Est-ce que les terrains de campagne sont plus favorables ? Quels sont les terrains des maisons de demain ?
Alors, ça dépend où est-ce qu'on habite, mais c'est vrai qu'il y a deux grandes problématiques. Savoir dans les villes, maintenant, comment on peut habiter, parce qu'il y a de plus en plus d'habitants.
Et de moins en moins de place.
Et de moins en moins de place, tout à fait. Donc,
imaginez aussi que les villes vont se développer.
Voilà.
Ou continuer à se développer.
Donc là, il faut bien réfléchir au problème de la densité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut réussir à vivre tous ensemble. Et si on veut vivre à l'extérieur des villes, il ne faut pas non plus s'éparpiller sur le paysage. En fait, il faut essayer de rester quand même groupé, même si on habite dans la campagne. Parce que quand on regarde les constructions un petit peu anciennes, tous les villages sont faits sur des hameaux, donc ils se collent les uns aux autres parce qu'ils ont besoin de vivre de manière groupée. Je crois qu'il faut essayer de faire évoluer l'image de la maison toute seule sur son terrain et avec une grande forêt autour. Il faut essayer de vivre ensemble parce qu'on est très nombreux, et même en ville il faut être très dense, mais même à la campagne il faut réussir à
limiter l'impact sur l'environnement et ne pas. On essayera d'éviter dans l'avenir, je pense, de gaspiller un petit peu du terrain qui peut servir à autre chose, notamment de l'agriculture ou de la forêt, qui sont nécessaires à la vie.
Donc l'idée, ça serait de bien différencier des lieux de vie, d'habitat, et des lieux d'agriculture ou d'activité humaine.
Et quand on entend d'ailleurs toutes les bonnes idées là qui ont été données par les enfants concernant les piscines, les terrains de foot, tout ça c'est possible, mais il faut vraiment pas réfléchir de manière individuelle. On peut avoir très bien une piscine collective pour un groupement d'habitat, pour 10 familles par exemple, et surtout on peut avoir des piscines écologiques, parce que pour l'instant on n'est encore pas très habitué à les voir fleurir sur les terrains, mais on peut imaginer récupérer l'eau de pluie et ensuite gérer le traitement des eaux par des plantes qui font ça très bien, puisque il faut quand même réussir à prendre tous les exemples qu'on a autour de nous dans la nature Et donc, il y a des micro-organismes qui savent faire en sorte que l'eau soit bien propre.
Par exemple, une petite fille disait qu'elle prendrait bien l'eau de mer dans sa piscine.
Oui, alors ça, c'est encore une autre idée, mais pourquoi pas ? Parce qu'on va peut-être avoir besoin aussi dans le futur, au niveau mondial, de désaliniser l'eau pour pouvoir donner de l'eau à tout le monde. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'en arriver jusque-là. On peut récupérer de l'eau de pluie. Et puis après, une fois qu'on a rempli notre piscine, on la réutilise. Elle se traite par les plantes, mais on n'a pas besoin de la remplir tous les jours, quoi.
Alors c'est possible ça, d'avoir une maison avec des piscines, des terrains de foot, des terrains de golf, des patinoires, etc., tout en étant maison écologique ?
Alors deux choses. La première, il y a une question budgétaire quand même, dont il ne faut pas trop s'écarter, mais on peut toujours rêver si on fait fi de cet aspect-là. Ce genre de construction, avec beaucoup d'espace, va pas beaucoup dans le sens de la nécessité qu'on aura demain de limiter l'impact et le développement urbain et périurbain. Cela dit, les pièces de cinéma, et c'est des choses effectivement qui risquent de se développer, dans une moindre mesure. Je pense que dans un avenir relativement proche, le manque de place va imposer aux architectes et aux constructeurs de rationaliser un maximum les espaces et de faire des espaces plus polyvalents que d'avoir une pièce définie pour une activité qui plus est secondaire comme du cinéma ou du golf.
Ouais. Ça pourrait être polyvalent et à la fois collectif. Moi, je pense que c'est une notion qui est importante à introduire, c'est que on va plus habiter chez soi tranquillement. Moi, j'ai ma salle de cinéma pour moi et ma piscine à moi.
On apprend à vivre ensemble.
Voilà, il faut apprendre à vivre ensemble et à partager. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi limiter les coûts, parce que au lieu que 10 familles et 10 piscines, on va faire une piscine collective. Et on va utiliser donc des matériaux écologiques pour la construction. On va pouvoir utiliser les plantes pour nettoyer l'eau. Et il faut réussir à rendre collectif tous ces rêves. Parce qu'en fait, finalement, chacun a c'est ses aspirations personnelles. Mais on arrive quand même à faire des points communs. Donc les gens ont envie de pouvoir avoir un grand terrain de foot pour se défouler, jouer au foot, avoir une grande piscine pour jouer. Donc c'est pas...
Mais c'est pas des choses qu'on va abandonner, ouais. C'est des choses qu'on va devoir
réfléchir différemment.
Voilà, voir de manière différente et aborder en construction de manière différente.
Oui, parce que moi j'en viens à une question, je me dis, est-ce que finalement on va construire toujours de nouvelles maisons ultra performantes, modernes, écologiques, etc. Est-ce qu'on pourrait pas réutiliser le bâti, les habitats que l'on a vend déjà, pour les rénover et les optimiser?
Alors ça, c'est une très bonne idée. C'est quelque chose... Alors, pour ce qui est du bâti neuf dans l'avenir, on peut espérer que un maximum d'efforts seront faits sur l'économie en énergie, sur la globalité de la maison, aussi bien pour l'électricité, pour le chauffage, l'eau et tous ces éléments-là, qui sont des ressources qui vont venir à nous manquer. Et puis, en parallèle, effectivement, le bâti existant, qui est très important aujourd'hui, quand on parle ou quand on pense aux villes que l'on connaît, le bâti est
c'est un patrimoine,
est beau,
quoi.
Et puis oui. Existant, et donc on aura un gros travail à faire justement sur la révision et la restauration, la rénovation de tout ce bâti. Voilà, donc toujours en prenant en compte les considérations d'économie. Tout à l'heure, les enfants parlaient de double vitrage, de panneaux solaires et de choses comme ça. Tous ces éléments-là, effectivement, a priori, ont de beaux jours devant eux. On l'espère.
Voilà, parce qu'on peut les ajouter à quelque chose qui est existant. On peut tout à fait prendre une maison existante et vouloir la rendre très écologique. On rajoute des matériaux, on rajoute du papier mâché.
On les change.
Voilà. On met du double vitrage, voire du triple vitrage maintenant. Ça existe pour toutes les fenêtres qui sont exposées au nord. On peut mettre des panneaux solaires sur le toit. Donc on peut imaginer que sa maison, si on est bien dedans, on n'a pas besoin de la détruire complètement et repartir à zéro.
Donc s'il y avait trois mots à donner pour décrire les maisons de demain de ces enfants, qu'est-ce que vous diriez ?
Évolutive, peut-être. Dans le sens évolutive, parce qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Si on a une maison qui est un peu consommatrice d'énergie, on peut faire en sorte qu'elle devienne plus performante. Et évolutive dans le sens aussi...
Moi, je dirais évolutive, respectueuse. Pour l'homme aussi, notamment sur un certain nombre de matériaux, on n'est pas certain de vraiment maîtriser leur impact sur l'environnement, mais aussi sur
la santé
humaine. Donc ça, c'est des choses qui sont prises en considération. Et le troisième point, je dirais économique dans tous les sens du terme.
D'accord, donc économique, respectueuse, évolutive.
Voilà.
Entendu. Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres s'y grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ça sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent, chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, vêtement par vêtement, petit à petit, vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris, des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laissé vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat qui rouvre les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boy aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures, finis tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table, écoutez la musique. Est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique. Est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique. Est-ce que vous l'entendez?
Quatre murs et un toit, c'était Benabar sur les oreilles buissonnières 99.2. Quatre murs et un toit, car aujourd'hui nous parlons de maison. Alors justement, question. Vos parents ne vous ont-ils jamais fait ce jeu durant ces interminables trajets en voiture pour aller voir vos grands-parents à l'autre bout de la France? Alors, qu'est-ce qui change les enfants? Mais regardez donc les différences de paysage, de végétation et de maison. À force de vous faire faire ce jeu tous les ans, vous avez bien fini par remarquer que les murs de pierre du sud répondent aux briques du nord et que les toits de tuiles laissent place aux toits d'ardoise. Parce qu'on n'est pas tous pareils, il y a ceux qui préfèrent la pierre et ceux qui ne jurent que par la paille ou le bois. Et oui, à chaque maison son petit cochon, comme vous le raconte si bien ce conte si ancien des trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui s'ennuyaient à la ferme. Ils voulaient avoir leur maison à eux, mais chacun voulait la construire à son idée. « Moi, je la voudrais comme ci, moi, je la voudrais comme ça, et moi, comme ci et comme ça. » Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. « Eh bien, dit le plus jeune, partons chacun de l'autre côté, et nous verrons qui de nous trois fera la plus jolie maison. »« C'est une bonne idée, » dirent les deux autres. Et ils s'en allèrent chacun de leur côté. Le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille. « Voulez-vous me vendre votre paille ?» demanda le petit cochon. « Je veux bien, » dit l'homme. Le petit cochon acheta la paille et se mit au travail. Il fit une petite maison, toute en paille. Les murs étaient en paille, le toit était en paille, la porte et la fenêtre étaient en paille. Le petit cochon, bien au chaud dans sa maison de paille, était très content. Il pensait que dans tout le pays, il n'y avait pas de maison plus jolie que la sienne. Le deuxième petit cochon rencontra une femme qui portait un fagot d'épines. « Voulez-vous me vendre vos épines ?» demanda le petit cochon. « Je veux bien, » dit la femme. Le petit cochon acheta les épines et se mit au travail. Il fit une petite maison tout en épines. Les murs étaient en épines, le toit était en épines, la porte et la fenêtre étaient en épines. Le petit cochon, bien à l'abri dans sa maison d'épines, était très content. Il pensait que le loup ne pourrait jamais toucher à sa maison. Le troisième petit cochon rencontra un homme qui menait un âne chargé de briques. « Voulez-vous me vendre vos briques ?» demanda le petit cochon. « Je veux bien, » dit l'homme. Le petit cochon acheta les briques et il se mit à construire sa maison. Il fit les murs en briques, le toit en briques, la fenêtre en briques et la porte en bois. C'était une maison très jolie, très commode et très solide. Le petit cochon était tout heureux d'avoir si bien travaillé. Quelques jours plus tard, le loup vint frapper à la porte de la maison de paille. « Pam, pam, pam ! Ouvre-moi ta maison de paille, petit cochon !»« Oh non, je n'ouvrirai pas !»« Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai, et ta maison tombera par terre et je te mangerai !» Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas. Le loup tapa du pied et il souffla, 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 il cogna. Et la maison de paille tomba par terre. Mais le petit cochon se sauva. Il courut de toutes ses forces jusqu'à la maison d'épines. Son frère l'avait vu venir. Vite, il le fit entrer et referma la porte au nez du loup. Pan, 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 fit le loup. Ouvre-moi ta maison d'épines, petit cochon. « Oh non, je n'ouvrirai pas. Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Ta maison tombera par terre et je vous mangerai tous les deux. Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas. » Le loup tapa du pied. Il souffla, 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 il cogna. Et la maison d'épines tomba par terre. Mais les deux petits cochons se sauvèrent. Ils coururent de toutes leurs forces jusqu'à la maison de briques. Leur frère les avait vus venir. Vite, il les fit entrer, referma la porte et cric-crac donna deux tours de clé. Il était temps, le loup arrivait. « Pan, pan, pan » fit-il. « Ouvre-moi ta maison de briques, petit cochon. »« Oh non, je n'ouvrirai pas. »« Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Ta maison tombera par terre et je vous mangerai tous les trois. »« Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas. » Le loup tapa du pied. Il souffla, souffla, souffla. Il cogna. Et la maison de briques ne tomba pas. Il tapa, il souffla, il cogna encore. Mais la maison de briques était solide et le petit cochon riait derrière la fenêtre. « Ah, c'est comme ça, dit le loup. Eh bien, je vais monter sur le toit, je passerai par la cheminée et je vous mangerai tous les trois. » Le petit cochon riait toujours. Il alla rajouter un peu de bois sec dans la cheminée sous la grande marmite de soupe chaude. Puis, les trois petits cochons se mirent à souffler sur le feu pour faire bouillir la soupe. Pendant ce temps, le loup grimpait sur la maison. Un peu après, on l'entendit marcher sur le toit. Enfin, sa queue apparut dans la cheminée au-dessus de la marmite. Alors, le troisième petit cochon enleva le couvercle de la marmite, puis il attrapa le queue du loup. « Faites comme moi » cria-t-il à ses frères. « Une, deux, trois, tirez !» Les trois petits cochons tirèrent ensemble et plouf, voilà le loup dans la marmite. Cuit, bouilli, fini le loup. Les petits cochons ne voulurent plus se quitter. ils vécurent tous les trois dans la maison de briques. Et s'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils y sont encore. Voilà, c'était Les Trois Petits Cochons, écrit par Paul François, d'après la tradition de ce récit, aux éditions Castor Poche Flammarion. Alors, d'accord, c'est une belle histoire dont Monsieur Bettelheim se ferait une analyse à la pincée épilée. Oui, mais moi j'ai deux, trois petites choses à dire quand même. Primo, il existe de très belles maisons en paille et en bois. Deuxio, il n'y a pas que de méchants loups, il y a des loups très sympas aussi. Alors arrêtons de les brûler toujours dans les marmites et offrons-leur aussi parfois de jolies histoires. Bah tiens, vous vous souvenez de Grand Loup et Petit Loup que je vous ai lu l'autre fois ? Et puis aussi, on peut leur lire des histoires à nos petits loups. Eh bien voilà, par exemple, un beau livre sur les maisons de toutes sortes, « Graines de cabane » aux éditions Gauthier-Languereau, écrit par Philippe Le Chermailleur et Éric Puy-Barré. Je ne sais pas si je le dis très bien, mais en tout cas, c'est un très 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 beau livre que je vous conseille de lire et de regarder, car les illustrations sont magnifiques. Merci à vous, chers auditeurs, chères petites oreilles buissonnières. Merci Marjorie Meunier, merci Florent Simon, Raphaël Terribelé à la technique, Donatienne Ranque, moi-même. Voilà, à très bientôt pour une prochaine émission sur les oreilles buissonnières. (Tousse)